Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez votre podcast 100% catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Pour m'accompagner cette semaine, l'inimitable Hank. Comment ça va, Hank?
Ça va très bien et je remercie tout le monde qui doit être en train de rire parce que c'était la Botcha Mania ce lancement de podcast. Donc voilà, vous avez entendu un bout de générique, c'est n'importe quoi. Merci.
Botcha Mania, c'est ça. On peut pas être parfait à tous les coups hein, en même temps. Alors, ce Raw, c'était le Raw du 30 octobre, hein, un Raw spécial Halloween qui se passait à Baltimore. Wouh! Au programme des retours en pagaille, Daniel Bryan tente des pourparlers. Deux titres sont défendus et on a un match de la citrouille. Alors, je vous rappelle que c'est la guerre entre SmackDown et Monday Night Raw. La semaine dernière, les barboulins de SmackDown sont venus faire une invasion, taper sur tout le monde dans le roster. Donc ce soir, la sécurité est renforcée. Et on démarre le show avec Kurt Angle qui est au milieu du ring face à tout son roster. Il présente des excuses parce que la dernière fois, il n'a pas fait le job. Il a mis son roster en danger. Il promet que ça n'arrivera plus. Mais voilà, qu'une musique retentit. C'est le premier retour de la soirée. Stephanie McMahon, la commissioner. Hein, elle est toujours commissioner de Monday Night Raw. Hein, c'est-à-dire que c'est elle, la patronne. Elle débarque au ring. Elle annonce le 25e anniversaire de Monday Night Raw qui se passera en janvier. J'ai pas la date précise, mais il y aura une émission spéciale. Ouais. Qui se passera dans deux villes différentes en même temps, donc émission croisée, on en reparlera un petit peu plus tard. Elle apporte son soutien à Kurt Angle dans un premier temps, qui a fait du bon taf jusqu'ici, malgré le fait qu'il ait un fils illégitime dans le roster. Mais tout ça, c'était vrai jusqu'à l'invasion de la semaine dernière. Alors Kurt Angle, il a un mantra avec 3 I, c'est intégrité, intelligence et intensité. Et elle décide de rajouter un troisième I, c'est l'incompétence. Elle nous explique aussi que la semaine dernière, son frère, qui était un petit peu, soi-disant, l'ami de Kurt Angle, Shane O'Mac, hein, le commissioner de SmackDown, a montré son vrai visage. Il n'a pas réussi à avoir sa vengeance sur Kevin Owens à Hell in a Cell. Donc cette semaine, comme d'habitude, il se venge sur sa sœur. Il passe ses nerfs sur sa sœur. C'est une affaire frère-sœur, en fait, tout ça. Tout est de la faute de Kurt Angle. Et pour se racheter, eh ben, il n'y a pas 36 façons. Il doit prendre la tête de l'équipe de Raw au Survivor Series. Et évidemment, le job de Kurt Angle est en jeu. S'il perd, il est viré.
Bien entendu.
Voilà, on nous annonce ce soir quand même au programme Seth Rollins contre Kane, Finn Balor contre Cesaro et éminemment Alicia Fox contre Bayley. Ça, c'était l'ouverture. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon Hank?
J'en pense que vieille recette, vieux pot, même confiture. on nous fait cette histoire-là tous les un an et demi quoi. C'est, attention, si tu gagnes pas, et ben tu te feras virer ou quoi que ce soit. Bon, on a vu que avec Shane et l'Undertaker, bah ça valait rien ces espèces de contrats, enfin de menaces ou quoi que ce soit, hein, ils peuvent très bien oublier ça le jour d'après, donc bon. Donc voilà, on est sur la route de Survivor Series, la route la plus pénible à faire. C'est un peu la. Imaginez vos pires vacances quand vous étiez bloqué dans les bouchons. Et ben c'est un peu ça la route de Survivor Series. C'est des moments ça avance un peu. Mais sinon, en général, on se fait chier. Mais là, je vais pas être méchant parce que les gens doivent rester. D'ailleurs, bonjour les gens dans le chat. Tristan, bébé, BCCA et tout ça. Faites des pseudos plus simples parce que c'est super dur à lire en stream. Mais donc, ouais, non, la séquence était pas franchement intéressante. Stéphanie McMahon, elle vient toujours couper les couilles de quelqu'un. Hein, dès qu'elle revient à Monday Night Raw, c'est pour... C'est pour que quelqu'un se fasse humilier, hein, c'est tout le temps ça, donc cette fois-ci c'est Kurt Angle. Kurt Angle, capitaine, tout le monde l'avait deviné, hein, s'il a... enfin, je veux dire, il est revenu dans le ring avec le Shield, donc Ça semble logique, surtout qu'on imaginait aussi le lendemain Shane devenir le capitaine de l'autre équipe. Bon, je spoil peut-être un petit peu, mais donc voilà, ça me semblait.
Ça paraît évident.
Ça me semblait évident, voilà. Rien de spécial dans ce segment d'intro, mais c'est pas forcément une super nouvelle, le retour de Stéphanie, quoi.
C'est vrai qu'elle n'est pas partie assez longtemps pour qu'elle ait commencé à nous manquer. et puis voilà, elle a commencé sa promo, c'était toujours le même type de promo, effectivement. Bon, après, ça construit le Survivor Series de manière assez cohérente, j'ai envie de dire. Hein. On en appelle toujours à la cohérence. Mm-hmm. Alors, on continue un petit peu dans les vestiaires. Kurt est avec Stéphanie sur le parking. Steph fait une référence à Mick Foley en appuyant son propos, comme quoi si tu ne me crois pas que je peux virer un general manager, bah t'as qu'à demander à Mick Foley. Et là, il y a une limousine qui débarque, hein, une s'en va, une qui arrive. C'est le Miz accompagné du Mistourage au complet. Bog Dallas est de retour, il est guéri. Le Miz, il est en retard. Hein. Kurt Angle, il lui fait une vraie bonne réflexion. Et c'est à cette heure-ci qu'on arrive, hein, le show est déjà commencé. Le Miz, toujours très sûr de lui, il va voir Kurt, il lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Après l'échec de la semaine dernière, t'es récompensé, t'as le droit de participer au pay-per-view de Survivor Series, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Là, Kurt, il l'engueule, il lui dit écoute, la semaine dernière, t'étais introuvable quand il y a eu l'invasion, soit t'es égoïste, soit t'es un couard. Donc ce soir, on va prendre les choses au sérieux et tu vas défendre ton titre intercontinental contre un adversaire mystère, pardon. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on a un match exceptionnel entre Bayley et Alicia Fox. Alors, à stupeur générale, on a donné un micro à Alicia Fox, donc elle va faire une promo. Elle nous explique qu'elle prend son rôle de capitaine très au sérieux. Elle n'a pas de temps à perdre avec un match contre Bayley. Donc, elle est remplacée. Remplacement de choix. Nia Jax de retour.
Tu l'as pas imité en train de faire le capitaine, quoi. Ça, c'était
non,
quelque
je
chose.
Ne fais pas ça.
je le ferai après.
Voilà. Donc le match, moins de 5 secondes est découlé, il y a déjà un botch. Alicia elle reste là pour regarder sous le titan tronc. Donc Nia Jax tout en puissance. Après plusieurs avalanches, elle va tenter un écrasement depuis le coin du ring sur une Bayley qui est knockout. Mais l'ancienne championne crochette le pied de Nia Jax et fait basculer la Samoan à l'extérieur du ring. Bayley prend l'avantage mais se fait sécher après un violent coup de bélier enchaîné d'une descente de la cuisse. Nia Jax gagne sa place au Survivor Series puisqu'Alicia Fox lui annonce qu'elle est sa première recrue. Donc suite à cette victoire assez expéditive sur Bayley, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, j'en pense que les conseils du Rock sont très bons. Non, mais bon, c'est une référence à la rumeur qui est sortie là il y a une semaine et quelques du Rock qui a eu Nia Jax au téléphone au moment où elle est non avant qu'elle soit partie de Raw, je sais plus, mais qui lui disait oui, bah si t'es mécontente de la façon dont on s'occupe de toi, n'hésite pas, pars pendant quelques jours. Et voilà, si personne ne t'écoute. Et tout comme Ringside n'est pas en train de m'écouter.
Si, bien sûr, c'est très intéressant. On a Nia Jax, Bayley, une rivalité de fou.
Ah, mais oui, mais chacun sa vie de couple. Et donc, du coup, j'étais en train de dire quoi? Ça me déconcentre. Nia Jax, tant mieux pour elle, tant pis pour Bayley. Enfin, c'est une nouvelle fois, genre, est-ce que Nia Jax aurait pas pu avoir sa place autrement qu'en squashant Bayley, enfin, c'était pas un total squash, mais quand même, c'était pas très loin.
C'est pas un scandale, mais pas loin. Hein. Voilà. Je suis pas du tout content du retour de Nia Jax, moi perso. Ah. Je vais la blacklister, elle, je pense.
Oh, c'est raciste. Mais ça. Non, je déconne.
Pas du tout.
Non, mais je rigole. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais Alicia Fox, malgré tout le mal qu'on peut dire d'elle dans le ring, faut avouer qu'il y a des moments elle est très marrante. Enfin là, du moins ces derniers temps, elle a eu quelques passages qui sont très marrants. Et le passage du capitaine, moi, ça m'a fait rire. quand elle est arrivée habillée
est
en capitaine.
Marrante, crispante, mais bon, ouais. ça va, y a pire,
quand
y a pire.
Habillée en capitaine en train de dire, This is your captain. ça, voilà, c'était marrant. Et puis surtout qu'elles disent, bon, j'ai pas le temps pour m'occuper de toi, mais j'ai une adversaire pour toi. Et finalement, donc du coup, elle passe tout le match devant le ring en train de regarder parce qu'elle a pas le temps finalement. Elle a pas le temps, mais elle regarde tout le match.
Oui.
Donc voilà, c'était. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Moi, ça me dérange pas que Nia Jax revienne. Bailey, je l'avais. Pour une fois que je prédis bien les choses, j'avais dit déjà au premier gros squash qu'elle s'est tapé il y a 2 mois ou un truc comme ça, j'avais dit Bailey, là c'est bon pendant. Allez, 3-4 mois, ça va être. Elle est sur le côté et elle a plus rien à voir. Bah, c'est ça, hein. Elle se fait battre en 2 minutes. Elle a pas de programme. Quand on la voit à la caméra, elle est en train de parler à Sasha Banks et c'est toujours Sasha Banks qui gagne, hein. C'est toujours Sasha Banks qui a le match intéressant. C'est toujours Sasha Banks. Donc, on voit la hiérarchie maintenant. Bailey, elle est en dessous. Elle est en bas.
Ouais, on est bien loin de. Des espoirs qu'on avait fondu en elle, ça dit ça? Et fondé en elle.
Non, fondé, oui. L'espoir qu'on avait fondé sur son futur.
Ouais, non, c'est pas gagné pour la pauvre Bailey. Là, on voit, bah, là, elle est, pour l'instant, elle sert à mettre en valeur le retour de Nia Jax. Bon, Nia Jax, on va faire avec, hein, que vous voulez que je vous dise, mais elle est pas très pro. Fait les divas, elle joue les divas, donc voilà, c'est pas super intéressant, mais en même temps, je vois mal comment ils auraient pu faire l'équipe des filles sans Nia Jax. Donc,
mais
ça reste cohérent.
On peut dire qu'elle joue sa diva, etc. N'empêche que ça marche. Enfin, du moins ça a l'air de marcher.
Ouais, mais on a le droit d'être pas content. Quand même.
Oui, non, mais c'est légitime. Mais qu'est-ce qui est le mieux entre Nia Jax qui pousse une gueulante? Même si c'est une des dernières arrivées qui pousse une gueulante et qui s'en va, et qui du coup revient et qui a. Du coup, moi ça m'intéresse de la voir dans Survivor Series, etc. Je pense que ça va être. Pour une fois, c'est un vrai argument pour l'équipe de Raw. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant, ça, malgré le fait que voilà, peut-être sa personnalité te plaît un peu moins, ou Bailey, qui est une gentille fille, qui répond oui à tout. Et qui fait de la merde, enfin qui fait pas qui fait de la merde, mais à qui on donne de la merde en permanence. Ouais. Et on sait très bien, on a vu Bailey dans Breaking Ground, elle est exactement pareille dans la vie que son personnage. Elle dit oui tout le temps, elle est timide, elle sait pas trop s'exprimer en public. Donc voilà, à partir du moment où
Si, on peut pas reprocher effectivement à un catcheur d'avoir un ego, ça c'est pas faux. Hein. Exactement. Il faut défendre son beefsteak. Alors, la suite des événements, parce qu'il y a un retour qui se fait dans la foulée, elles n'ont pas encore quitté le ring, les filles, que la musique de qui donc Samoa Joe retentit. Les fivas de la foule. Joe. Il débarque au ring. Donc il dit je vous ai manqué hein les gars, je vois avec les chants que vous faites quand j'arrive, mais c'est pas réciproque. Voilà, il fait une promo pour se mettre à dos le public, hein, tout simplement.
Il a emprunté le texte de Rollins pour son retour.
C'est ça, exactement. Le classique, hein. Ah vous m'aimez, mais moi je vous aime pas, vous êtes des connards. Et il lance un open challenge. Et qui vient répondre à cet open challenge? Hein? Finn Bálor peut-être?
Finn Bálor.
Non.
Je savais pas que ce soir la thématique ce serait les questions-réponses.
T'as pas bossé le truc.
Ah non, mais non, j'ai pas de notes devant moi, je suis en train de regarder le chat là, c'est.
On est pourvu. Voilà, Apollo fucking Crews, Titus Worldwide, hein, qui vient se faire botter le cul, hein, accompagné donc par Titus. Donc malgré quelques fulgurances, hein, Apollo succombera rapidement au Coquina Clutch. Tout comme Titus d'ailleurs, qui aura tombé la veste pour tenter d'intimider le Samoan. Donc voilà, retour gagnant de Samoa Jean, j'ai envie de dire.
Samoa Jean ? Non, j'ai.
Samoa Jean. J'ai des problèmes d'élocution ce soir, hein, vous m'excuserez. Mais
non, mais c'est bon. Non.
Qui se termine tard, tout ça.
Ah, d'accord, c'est la digestion. Et donc, du coup. Non mais tant mieux. On est content du retour de Samoa Joe. Je sais pas quelle place il va avoir ensuite, mais Il est pas, non, il est pas, pour l'instant, il est pas confirmé dans l'équipe de Survivor Series. Si? Non?
Non. Pas.
Donc ouais, non, mais c'est cool. C'est toujours dommage de, du coup, ça nous rappelle que la Titus Brand, en fait, ça a failli marcher pendant un temps, et du coup, là, c'est, genre, tout le monde, enfin, du coup, plus il y en a qui reviennent, plus, ah non, on n'a plus la place. Titus Brand, c'est repassé sous le tapis.
Mais Titus Brand, c'est bien pour occuper un catcheur pendant 2-3 semaines. Tu le fais affronter Apollo, après il va réaffronter Apollo, puis après il va affronter Titus. Puis voilà, ça l'occupe le temps qu'il ait un truc un peu plus sérieux.
Ouais, c'est pas faux. Non mais puis c'est plaisant de voir le public qui est super fan de Samoa Joe, même si le public a été plus ou moins smart et plus ou moins agréable au fil de la soirée. D'ailleurs, attends, c'était à quel moment? Ben, c'était pendant le speech de Kurt Angle où ils lui ont fait des watts. Ils l'ont watté dès le début. Ils l'ont watté totalement. Et,
il a passé pour un clown la semaine dernière. De tout de suite, la semaine suivante, bam, les watts chantent dans la gueule.
Ouais, puis alors là, il passe encore plus pour un clown. Donc c'est un peu le syndrome, pour reparler du premier segment, c'est juste que c'est quoi l'intérêt finalement d'enterrer à chaque fois votre GM? Parce que c'est ça ce qu'ils font à Monday Night Raw, c'est que le GM il arrive, c'est le héros, tout le monde adore ce qu'il fait, ça continue pendant quelques mois, ensuite il y a Stéphanie qui pète un câble, ensuite il se fait enterrer, ensuite Stéphanie est en train de démontrer à tout le monde que c'est une sous-merde, lui il ferme sa gueule, il fait une tête de chien abattu. Et c'est le moment où vous pouvez le virer parce qu'il a plus de d'aura, on va passer à autre chose quoi. C'est un peu la machine à essorer les GM quoi.
Ouais, les GM et les superstars. Hein. On a vu un peu avec Seth Rollins, c'était bien difficile.
Peut-être tant que Stéphanie ne parle pas aux superstars, s'il vous plaît. Juste avec Kurt Angle, mais arrête parce que Stéphanie, l'époque de Stéphanie qui pourrit toutes les superstars, stop. Pas ça.
Ouais, bah c'est clair. Non, il faut faire très très attention avec la famille McMahon et Stéphanie à utiliser avec Parsi et Moni. Surtout si Triple H ne tarde pas à revenir. Voilà, on verra qu'il y a des gens qui vont monter en flèche là dans le roster. Donc il faut que ça reste sur cette montée. D'ailleurs, on voit quand même entre Samoa Joe et Apollo Crews, on voit quand même la différence de stature et de gabarit. Hein. Samoa Joe, c'est une star maintenant, hein, depuis qu'il a affronté Lesnar. Ouais. Apollo Crews, malgré tout son talent, il faisait pas sérieux quoi, devant.
Mais c'est la même histoire qu'on avait. Je sais pas si on en avait parlé en podcast, mais on en a parlé dans le chat sous Skype avec toi et l'amiral peut-être sur la rareté des les apparitions en fait. On en a parlé dans le Talking Catch, dans le dernier Talking Catch. La rareté des apparitions et le fait qu'on nous donne envie de voir la personne parce qu'elle est pas tout le temps là ou parce que c'est toujours une surprise quand elle est là. Samoa Joe, ils ont réussi ça avec lui. Pour l'instant, on a toujours l'impression que Samoa Joe quand il est là, c'est spécial. Il est pas là tout le temps, sauf quand il était contre Lesnar, il était là bon à chaque show normal, mais sinon voilà, ils ont réussi à bien le conserver comme ça et c'est pour ça que même un match contre Apollo Crews, il est intéressant parce que enfin bon, c'est son retour aussi mais même ça on a envie de le voir donc.
Ouais. On va espérer que ça continue sur la lancée. Alors, on a des petites informations pour le Monday Night Raw, donc des 25 ans, qui se passera à la fois au Barclays Center et au Manhattan Center, à New York, donc. Mm-hmm. Il y aura les deux rosters qui seront impliqués. Et on attend déjà trois légendes du ring, donc le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, Kevin Nash, hein, Big Daddy Cool Diesel, et rien moins que l'Undertaker. Donc, l'Undertaker, hein, que tout le monde pensait en retraite, sera là.
Et du coup, c'est la loterie, en fait. Tu sais pas si tu vas au bon show, en fait. je veux voir l'Undertaker en fait, faut que je m'achète un ticket pour les deux et que j'attende peut-être de savoir.
Ouais, à voir. Ça, je sais pas comment ils vont vendre le bordel. Généralement, ils assument quand même ce qu'ils présentent, hein, WWE. Donc,
ouais.
Quand ils annoncent quelque chose, il faut que ce soit là. Donc, peut-être les mecs prendront un taxi et viendront.
T'imagines, genre, ils font une moitié de show, ils refont la moitié de show de l'autre côté.
Possible, pas qu'il y ait des embouteillages le jour-là. Bon, il y en a qui peuvent se téléporter, hein, l'Undertaker, Bray Wyatt, tout ça, donc ça pose pas de problème.
Ah oui, ça c'est pratique.
La suite des opérations. Un mec qui se téléporte, tiens, on va en parler un peu plus tard. Alors, donc, c'est le Miz hein, qui va défendre son titre intercontinental. Mm-hmm. Donc, qui est l'adversaire mystère? Mais c'est Matt Hardy.
Et hein, oui.
Parler d'un mec qui se téléporte.
Celui-là, j'aurais pas. Hein. Celui-là, avant le show, j'aurais jamais deviné.
Hein. Genre... Ouais, pareil. Donc, Matt Hardy, toujours en mode semi-broken. Donc, bah voilà, un match très serré entre le Miz et Matt Hardy. Double descente du coude vers la fin du match pour un compte de 2. Side effect, toujours pour le compte de 2. Moonsault, toujours pour le compte de 2. Matt Hardy n'arrive pas à damer le pion du Miz. Il va finir par contrer les hit kicks en Twist of Fate, mais le Miz va rouler et se réfugier dans les cordes. Il va placer une guillotine sur son adversaire. Et le Skull Crushing Finale pour la victoire. Voilà, donc une défense de titre à Monday Nitro, titre intercontinental. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre que le titre n'était pas défendu. Ben voilà, il y a une défense ce soir contre rien moins que Matt Hardy. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Le match il était vraiment bien, surtout à cause de Matt en fait. Enfin, surtout parce qu'il a vraiment donné tout ce qu'il avait, Matt Hardy. Ce qui est vachement louable parce que finalement il a pas vraiment à faire ça hein. Il sait très bien que là il est en train de remplir un peu l'emploi du temps en attendant que son frère revienne, donc du coup il y a pas y a pas besoin de prendre de risques ou quoi que ce soit. Il fait quand même un moonsault quoi, juste comme ça, gratuitement,
surtout qu'il a l'air de galérer hein, quand même hein.
Ouais. Ah c'est sûr, il fait des choses spectaculaires mais entre deux il marche comme un vieux, mais
tu peux pas arquer.
C'est un peu ouais, sinon, c'est un peu une espèce de grande carpette en fait quand il marche. Et après il fait un truc super athlétique, c'est ce qui est bizarre. Mais oui,
Team
non
Extreme.
Mais c'était un bon. Comment?
Team Extreme.
Team Extreme.
C'est la
oui.
Team Extreme. Donc et oui. Voilà, hein, même si t'es en train de mourir, ben c'est pas grave, tu fais un moonsault.
Voilà.
La troisième corde.
Soit spectaculaire, quel que soit ton niveau de ton comment. Ton état de santé. Donc oui. Non mais j'ai pas grand chose à dire sur le match. C'était un bon match. Après, enfin, on devinait forcément le résultat. Hein. Comme à peu près tous les matchs, c'est aussi ça qui fait de la route de Survivor Series un peu un passe-temps plus qu'un moment d'excitation parce qu'on sait que la majorité des titres te changeront pas de main quoi. À part peut-être celui du cruiser.
Mais bon. Il y avait un petit suspense parce que l'affiche Corbin Miz, Baron Corbin qui est le champion US, hein, affrontera le Miz hein, Survivor Series. Ça fait heel contre heel et c'est pas forcément une affiche qu'on a vraiment envie de voir, mais bon, là ils se font la guerre sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des tweets qui sont passés de l'un comme de l'autre pour monter un petit peu la sauce. Et visiblement, le Miz il va garder la ceinture histoire d'exploser le record du Honky Tonk Man. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on va quand même finir sur un match entre les deux. Et effectivement, le suspense n'est pas là, mais
et ben moi je veux le voir.
Une bonne défense de titre.
Moi, je veux le voir, le Corbin Miz. Je suis peut-être seul dans l'univers, mais je veux le voir.
Ça va être un sacré test pour Corbin. Hein. Il va falloir qu'il se lève le cul, hein, parce que c'est pas le Miz qui va sortir un beau match. Et Corbin, c'est délicat quand même. Hein.
Non, mais en fait, je veux le voir plus pour la psychologie que pour le.
Ouais.
Le
catch, c'est ce quoi. Qui peut les sauver maintenant. Ouais. Ça peut être bon, mais ça peut être très mauvais.
On a l'amiral dans le chat qui dit que le moonsault de Matt Hardy, il était moche et que Y2J, il fait mieux au même âge. Après, je pense que Y2J a quand même pris moins de risques dans sa carrière de catcheur que Matt Hardy.
Ouais, c'est pas faux.
Au niveau
ouais, parce que quand il était pas là, à la TNA, tous les matchs qu'ils ont fait, c'était des matchs hardcore dégueulasses où ils se sont ruinés la santé. Comme c'est pas permis, mais après Y2J il sait gérer sa santé aussi comme peu de monde hein, dans le monde du catch. Donc
et on le verra peut-être contre Kenny Omega.
Il est pas si moche que ça, il est bien sévère l'amiral quand même.
Oui. Non, en plus, il était de travers, mais je crois qu'il a corrigé sa, justement, c'était pour corriger sa trajectoire par rapport au corps du Miss qui était pas pile devant le poteau. Point technique. Bon, allez.
Allez, avançons. Kurt Angle, toujours sur son portable, est rejoint par Alexa Bliss dans les vestiaires. Bon, pour parler crûment, elle vient un peu jouer les susboules pour pousser Kurt Angle à virer Mickie James. Mais Kurt Angle s'énerve et il lui annonce que plutôt elle défendra son titre ce soir en main event contre justement Mickie James. Donc voilà, ça ce sera pour un peu plus tard dans le show. On est toujours chez les filles puisque c'est le moment Asuka. Donc qui a débarqué au roster la semaine dernière. Hein. Elle a fait son premier match en weekly après sa victoire à TLC. Donc deux fois elle a battu Emma dans des matchs très accrochés, mais ce soir elle affrontera une rookie ou une locale, on ne sait pas trop, Stacy Cullen. Donc elle la squash vraiment très violemment au point de faire peur au public, j'ai un peu la pression avec ces violents kicks.
Ouais.
Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus?
Ouais, après c'est peut-être mon ultra sensibilité au ce qui fait un face, ce qui fait un heel, mais alors le match était genre un petit peu violence gratuite. C'était bizarre parce que il y a l'association, en fait son gimmick c'est qu'elle est souriante tout le temps, mais du coup c'est toujours difficile. Il y a des moments ça marche, des moments ça a jamais posé vraiment de problème avec Asuka, mais là pour le coup sur ce match là. Parce que elle
disons
est.
Disons que c'est
voilà.
Pas le même public, hein, peut-être entre Raw et NXT.
Ouais.
On n'est pas sur le même public.
C'est vrai qu'on
a l'impression qu'elle est peut-être un peu violente pour le grand public.
Ouais, voilà. C'est vrai que derrière, en fait, l'ambiance du match est difficile à. Du coup, elle devient difficile pour le spectateur même derrière la télé parce que on n'y a pas le public d'NXT qui gueule Asuka's gonna kill you, qui donne du coup un effet genre on regarde le truc, on sait que ça va être voilà, ça va être enfin, on a la sensation que c'est beaucoup plus convivial que là où il y a un silence. Enfin, il y a peut-être pas un silence de mort, mais c'était quand même assez calme. Et où finalement, dans ce calme, t'as Asuka qui fout des sales coups de pied à la jobbeuse. Ouais. Et qui regarde le public toutes les deux secondes, il fait hey et non, maintenant c'est un peu trop violent pour. Bon, et qu'est-ce que j'allais dire? Mais en tout cas, tous les tweetos et tous les smart frustrés de TLC doivent sauter de joie maintenant. Parce que non seulement Asuka elle tape des jobbers, enfin elle squash des jobbers, mais en plus elle a pu associer de Emma qui est partie à jamais.
C'est vrai. Voilà, on va faire un petit point sur les
sur
gens
les
qui ont été virés.
Alors, le point licenciement. On va en faire un tous les trois mois.
Licenciement. Alors, vous prendrez votre chèque.
Ouais. Hein, le point Pôle emploi.
Voilà. Donc, Emma.
Catch emploi.
N'est plus là.
Ouais.
Darren
Young.
Summer Rae.
Ah. Yeah,
et Darren Young.
Et Darren Young. Après, bon, avouez-le, hein, derrière votre écran d'ordinateur, Darren Young et Summer Rae. On s'en bat un peu les steaks, hein. Mais Emma, par contre, c'est quand même complètement improbable, surtout pour la place qu'il lui avait donnée ces derniers temps. Mais bon, je vais pas ressortir. J'ai déjà fait une super vidéo blog vlog machin sur la chaîne, donc
c'est vrai.
Si vous voulez aller le voir,
n'hésitez pas. La vidéo en complet sur
plein d'émotions.
Le licenciement de Emma. Et t'as peu parlé de Summer Rae et d'Aren Young.
Mais non, mais je savais pas à ce moment-là. Mais je pense pas que j'en aurais parlé quand même.
Non, c'est vrai. Parce que d'Aren Young, je vous rappelle hein, qu'il avait eu un push pour le titre US. Il avait fait un match ignoble. Donc,
ouais,
mec
d'Aren Great Again, mais ça, il est pas devenu Great Again finalement.
Non.
Il n'a jamais été Great.
Il n'a jamais rien fait la peau. Mais on est triste pour eux quand même, hein. Ouais, mais bon. Alors, on retourne dans les vestiaires. Quelqu'un aussi qui a son job qui est en jeu, hein, c'est Kurt Angle qui est toujours sur son téléphone. Il est soudain pris de panique. Il alerte la sécurité. Il y a une invasion qui est en cours. Mais non, c'est juste Daniel Bryan.
Oh mon dieu. Oh mon dieu.
Daniel Bryan qui est venu dans les vestiaires. Il semble vouloir faire amende honorable, mais Kurt Angle ne lui fait pas confiance.
Putain, mais c'est...
Alors là, on a un petit clip qui nous résume la rivalité entre Lesnar et Mahal, un peu façon UFC. Et on revient sur Daniel Bryan, qui est toujours au téléphone. Hein. Kurt Angle est parti. Il discute, je pense, avec Shane O'Mac. Là, les lumières se coupent. Voilà, il explique qu'il est, il est perdu, là, il n'arrive pas à trouver la sortie. Kurt Angle est parti, il y a une porte qui est fermée, il ne peut pas sortir. Il est très frustré de toute cette histoire. Hein. On lui a pas... La semaine dernière à SmackDown, pour l'invasion de SmackDown, il n'était pas au courant. Là, on lui fait un coup de Trafalgar. Il pleurniche et finalement, il se fait attaquer par un homme monstrueux. Rien d'autre que The Big Red Monster, Kane, qui le choque slam hors champ, hein, j'ai envie de dire. T'as envie de t'arrêter un petit peu là-dessus ?
J'ai envie, oui, j'ai envie que la séquence s'arrête, en fait. Oh mon Dieu, mais...
Ouais, il y a un peu... Il nous casse les bonbons, un peu.
C'est... Non, mais c'est, en plus, ça, c'est assez... Le problème, c'est pas... Bon, déjà, c'est pas bien joué. Enfin, c'est assez mal joué.
C'est pas dans le ton, hein.
Kurt Angle, il est... Il est à 3 mètres de Daniel Bryan quand il dit « Attention, une invasion commence !» Et tu fais « Qu'est-ce qui se passe ?» S'il y avait quelqu'un qui... À la limite, s'il dit ça et juste après, il se fait plaquer à terre par quelqu'un, bon, d'accord. Mais et c'est Daniel Bryan qui arrive, qui est en train de marcher, qui est genre tout gentil avec sa chemise à carreaux, comme d'habitude. Et pourquoi il crie ça au téléphone et c'est n'importe quoi.
Là, il est sur les nerfs.
Et donc, du coup, il arrive, il commence à essayer de lui parler de façon totalement calme, raisonnée, etc. Puis Kurt Angle fait « Ouais, non, machin !» Et qui... En fait, c'est le jeu de qui va devenir le plus fou et déraisonné pour coller au pay-per-view, en fait. C'est vraiment... C'est n'importe... Un humain normal ne réagirait pas comme ça. Que ce soit Shane McMahon qui lance une attaque limite terroriste sur Raw. On a alors que c'est toujours un babyface. Hein. J'ai regardé le dernier SmackDown, il est toujours bien, le public l'adore, tout va bien. Ensuite, t'as Kurt Angle qui du coup fait pas du tout confiance à Daniel Bryan. À la limite qu'il ait ses doutes, d'accord, mais là, c'est carrément genre, ah, je te fais pas trop confiance, c'est pourquoi je vais t'enfermer dans le noir, dans une pièce, et je vais te prendre en otage. Tout va bien. Tout est normal. C'est juste. Non, mais bon, on est dans le monde du catch, donc oui, il y a des trucs absurdes, il y a des trucs caricaturaux, etc. Mais là, on prend vraiment les gens, genre, pour des gros, gros cons.
J'ai l'impression qu'ils ont récupéré les scénaristes recalés de Walking Dead. On dirait une guerre entre Rick et le gouverneur, ou Rick et Negan, là, des guerres de clans, où il y a des alliances qui se font, mais alors on ne sait pas si on peut faire confiance, et après il y a un retournement, un mec se fait tuer. J'ai l'impression qu'ils essaient de donner un petit peu cette aspérité à la rivalité.
Ouais, et Kane qui attaque Daniel Bryan, il n'y a aucune raison aussi. Enfin, je veux dire, à part le fait que la thématique de ce Raw, enfin, parmi les deux thématiques de ce Raw là, il y a les retours et il y a Kane et on veut que vous soyez convaincus que Kane est un grand catcheur encore aujourd'hui, en fait.
Ouais. C'est le gros projet du moment.
Donc du coup, parmi ces grands catcheurs du moment, il peut chokeslammer un mec qui est à la retraite et censé pas catcher. Voilà. Ouais. Ça c'est, il est très fort pour ça. Mais donc non, mais voilà, non, c'est nul comme séquence. J'allais parler de la réaction de Shane le lendemain, mais la réaction de Shane est complètement débile aussi. Donc voilà, regardez SmackDown, c'est de très bonne qualité aussi.
Allez, on va avancer un peu. Finn Bálor affronte Cesaro, qui est accompagné de Sheamus. Voilà, un match sans enjeu, hein, la rapidité de Bálor face à la force de Cesaro, la puissance de Cesaro. Plusieurs des interférences de Sheamus pendant le match. Alors un joli superplex pour le compte de 2 exécuté par Cesaro. Sharpshooter enchaîné sur un crossface, toujours de la part de Cesaro sur Bálor. Tout ça est retourné. Bálor arrive à passer un standing double stomp. Ensuite, c'est le classique Sling Blade Shotgun Dropkick. On va tenter le coup de grâce, mais c'est une intervention de Sheamus. Finn Balor va se débarrasser de l'Irlandais. Il fait passer aussi le Suisse par-dessus la troisième corde. Il va nous faire un joli suicide dive. Et à partir de là, il remet Cesaro dans le ring. Il place son coup de grâce. Victoire de Finn Balor. Et là-dessus, évidemment, il y a Kane qui débarque. Donc, il se croise sous le titan tronc. Kane, il va placer une big boot sur Baylor qui va tenter la défense par l'attaque, hein, comme on dit. Mm-hmm. Et il va se manger un tombstone pile driver, hein, juste sous le titan tronc. Et après, donc, on va enchaîner sur un autre match. Mais tu veux peut-être t'arrêter là, un petit mot à dire ou pas forcément.
Si vous ramenez Cesaro pour que Balor reprenne un peu du galon, j'allais dire du galon, pour qu'il se rattrape un peu de la semaine dernière où il a perdu contre Kane, pourquoi il se fait massacrer par Kane à la fin?
Kane est inarrêtable.
Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment
c'est
besoin
Kane,
de ça?
C'est le monstre du jour.
Y a pas, vous allez pas me dire que vous
y
allez...
Il n'y a pas besoin, c'est très idiot de le faire sur Finn Balor,
voilà.
Mais ils ont décidé de
pourquoi
faire ça.
Vous faites ça maintenant? Y a même pas, et vous allez pas me dire qu'il va y avoir une rivalité entre Kane et Balor? Non, il y a Survivor Series qui arrive, Kane, il va être dans l'équipe de Raw, je pense.
Je pense pas, hein.
Non. Ou alors, peut-être dans un match, pas dans un match contre Strowman, hein, probablement. Hein.
Moi qui fasse durer, on verra bien.
Je suis sûr qu'il n'y aura pas une rivalité contre Balor. J'en suis persuadé. Mais c'est juste, là c'est gratuit. Et en plus, ça aurait été malin justement de faire ça, de faire la victoire contre Cesaro. Et donc du coup, Cesaro, il n'a pas besoin de gagner parce que lui il est en tag team. Donc s'il perd tout seul, c'est pas la mort. Donc voilà, tout allait bien jusqu'à encore une mauvaise décision à la fin.
Joli match quand même.
Oui, non, mais je, très joli match. Bah, c'est Cesaro et Finn Balor, quoi. Ça peut pas être mauvais.
Ça peut pas être mauvais, hein. C'est ça. Et la suite, donc, c'est Seth Rollins qui va affronter Kane. Donc Seth, il débarque avec Dean Ambrose, hein, façon Shield. Donc Kane est invincible, hein, Rollins il a beau faire ce qu'il peut, il n'y a rien qui passe. Sheamus et Cesaro sont restés aux abords du ring et ils vont attaquer Ambrose à un moment donné. C'est une diversion qui va permettre à Kane de placer un choc slam pour le compte de 3. Ensuite on va s'acharner sur Rollins, mais Ambrose intervient. Il réussit à placer quand même un dirty deed sur Kane qui se relève façon Undertaker quelques secondes plus tard. Donc il y a Cesaro et Sheamus qui reviennent dans l'action et on va placer un pile driver sur Dean Ambrose et puis un nouveau tombstone pile driver sur Rollins. Donc voilà, Kane en puissance, hein, ce soir. Daniel Bryan est évacué en civière, hein, suite à l'attaque qu'il a eue dans les vestiaires. Donc voilà, effectivement, le monstre Kane, imbattable, invincible, qui détruit les champions tag team.
Ouais. Au moins, Rollins a eu le luxe d'avoir une diversion, quand même. On lui a offert quand même la défaite par diversion, parce que c'est Rollins quand même. Mais je sais pas. J'espère que ça vaut le coup. J'espère que ce Kane Strowman qu'on nous... Là, c'est pas du spoiler en plus ce que je suis en train de raconter, parce que Kane a annoncé dès son retour que voilà, c'est Strowman qui veut, c'est Strowman qui est le big monster, enfin le nouveau big monster, et lui il veut rester le big monster. Enfin, tout ça c'est très philosophique.
Voilà. Pour l'instant, Strowman il est compacté. Hein. Alors, dans les vestiaires, le mistourage célèbre la défense victorieuse du champion intercontinental. Ils vont dans leur loge, hein, qui a été un peu aménagée là pour faire la fête, mais il y a une odeur nauséabonde. C'est un sac poubelle qui est resté au milieu de la pièce. Le Miz, il s'affole, il y voit un signe du retour justement de Braun Strowman, dont on parlait, le monstre parmi les hommes. Hein, qui avait été jeté dans une benne à ordures et compacté à TLC. Donc il est inquiet, hein, parce que sa ligne de défense, ça se résume à Curtis Axel et Bo Dallas. Alors, les autres lui disent, t'es inquiet? Il dit, non, non, mais t'as raison, ne sois pas inquiet, c'est nous qui te défendons et tout, on a tes arrières. Et juste après, le Miz répond, ah bah oui, tiens, bah maintenant je suis inquiet, maintenant que je sais ça. Donc, il va retrouver Kane dans les vestiaires. Donc, il lui explique, écoute, je crois que Braun Strowman est dans l'immeuble, et, hein, il nous a laissé un signe dans la loge. Kane n'est pas inquiet, hein, il dit, bah si Strowman il est là, il sait où me trouver. Donc, le Miz est content, il dit, ah bah je savais que tu serais de mon côté et tout ça. Et Kane lui dit, ah non, non, t'es con, t'es tout seul hein, sur ce coup-là, mon pauvre. Donc, pas d'allié pour le pauvre Miz. Alors, on va enchaîner sur le match Halloween, match de la citrouille. C'est encore le club qui s'y colle parce que je crois que l'année dernière c'était déjà eux. Mais cette année ils sont déguisés en Chad Too Bad et en Tex Ferguson, les deux tag team qui a fait les beaux jours de comment ça s'appelle Southpaw Wrestling.
Regional, Southpaw Regional Wrestling.
Voilà. Là, tu n'assumes pas là, tu te caches.
Ah mais non, j'espère que ça va être court.
Chad Too Bad et Tex Ferguson qui affrontent le Père Noël et la Mère Noël. Le Père Noël c'est Slater, la Reine Noël c'est Rhino.
The Beauty and the Man Beast.
C'est ça. Victoire de Rhino et Slater. Alors il y a eu des kendo sticks, des tables, etc. C'est Anderson qui passe à travers la table pendant que Gallows a mis une citrouille à l'envers sur sa tête. Donc il pouvait plus voir ce qu'il faisait. Voilà, c'est excellent. Hein
alors, Never again.
C'est ça.
Mais je dis ça, c'est la même tous les ans. Donc, au moins cette fois-ci, je crois qu'ils ont réservé l'espace blague d'Halloween à un passage plus court de Raw parce que je pense qu'il y avait d'autres sketchs avant. Les années précédentes, ils avaient fait quand même au moins 2-3 sketchs en plus. Là, ils se sont limités à juste ridiculiser Gallows et Anderson.
On dit beaucoup que Gallows et Anderson sont ridiculisés à la WWE, qu'il ferait mieux de retourner au Bullet Club. Mais dans un des derniers shows de la New Japan, la Road to Power Struggle, l'élite... Kenny Omega, Chase Owens et Marty Scurll sont arrivés déguisés au ring en cosplay, enfin c'est même pas un cosplay, en déguisement d'Aladin de Disney.
Oui, il était en Jasmine, du coup.
Marty Scurll était Aladin, le génie c'était Chase Owens et Kenny Omega était en princesse Scheherazade. Je peux vous dire que ça pique les yeux aussi. Hein.
Ah d'accord. Je me semblais que c'était Jasmine. Voilà. Mais
Jasmine, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ah ouais, les précisions, c'est important. C'est trop dans ce podcast spécial Disney. Ouais, non, mais bon, ouais, c'est vrai que c'était. Mais après, je pense pas que leur match était aussi pénible à regarder quand même. Là, c'était.
C'était quand même mieux. Mais il n'y avait pas de tableau de kendo stick. Mais c'était quand même déstabilisant.
Et puis les commentateurs, le Michael Cole, il était désespéré, Michael Cole. Je ne sais pas si tu as entendu les
Ouais. Oh, c'était, ils font du meilleur boulot en ce moment, je trouve, au niveau des commentaires. Ils ont.
Ouais. Apparemment, on leur a pas obligé à vendre le match parce que pendant tout le match, ils étaient genre voilà. bon bah écoutez, c'est un grand moment de télévision. Ils ont vraiment sorti des trucs comme ça.
Ouais.
Donc on sent que là ils avaient je sais pas. C'est très bizarre hein, la WWE, ils programment de la merde et ensuite ils laissent les commentateurs dire que c'est de la merde.
Rendez-vous.
C'est quand même c'est un peu schizophrène des moments la WWE.
C'est vrai que des fois c'est pas très finalisé. Allez, Elias, la balade de Jason Jordan, hein, il vient nous chanter ça à la guitare. Hein, il nous explique que cette semaine Jason Jordan pourra pas interrompre sa performance. Puis la correction qu'il a reçue la semaine dernière, hein, il s'est mangé un coup de guitare, Jason Jordan. Mais évidemment, Jason Jordan débarque. Une petite souplesse des familles et il fait fuir Elias et après il casse la guitare d'Elias.
Voilà.
Ça marche pas hein, pour Jason Jordan. Hein. Faut pas casser la guitare de son ennemi comme ça.
Alors Jason Jordan, j'en ai rien à faire. Trouvez quelqu'un d'autre pour Elias, s'il vous plaît. Ilias, il est très bien.
Mieux, hein.
Mais c'est... oui, il est juste très bien, Ilias. Il a juste besoin de quelqu'un en face. Genre.
Maintenant, il a un truc dans le regard là qui fonctionne trop bien. C'est...
Ah, peut-être.
Exceptionnel.
Début de bromance.
Ouais, ça. C'est quelque chose.
Il a quelque chose dans le regard. Non mais oui, bon voilà, Ilias c'était marrant. Jason Jordan, juste rentre chez toi. J'en peux plus de Jason Jordan.
Retourne.
Et j'ai un t-shirt et je tiens à dire, j'ai un t-shirt American Alpha, donc je ne suis pas un hater de Jason Jordan. J'étais grand fan de l'Attack Team. Juste maintenant là, il arrive presque au niveau Kalisto du côté insupportable. Je peux pas le voir. Genre, dès que je le vois à la télé, j'ai envie d'avancer.
Ouais. Ça, c'est mauvais, quand même. C'est mauvais. Le Mistourage tente de quitter le building. Hein, ça, on s'en est trop. Mais ils sont stoppés par Kurt Angle, qui les force à rester. Hein. Il dit, oh, le Mist, t'es arrivé en retard. En plus, je crois que tu vas partir avant que le show soit terminé. Ça se passe pas comme ça. La suite des opérations, c'est les Cruisers, Enzo et Drew Gulak arrivent au ring. Donc on nous reparle du mantra de Kurt Angle, intensité, intelligence, intégrité, trois mots qui pourraient décrire Enzo ou Gulak, hein, d'après Drew Gulak. L'incompétence, ça s'y est mieux à Kurt Angle, comme l'a dit Stephanie McMahon, et surtout à Kalisto. Et ce soir, donc, on a un match Kalisto contre Drew Gulak. Gulak qui d'abord botche la catchphrase d'Enzo, hein, le soft, ce qu'il l'épelle de manière normale.
Soft,
hein,
S-O-F-T.
Excellent, Gulak. Enzo fait les gros yeux et donc Gulak perd le match, hein, sur une solida del sol de Kalisto. Marrant, Drew Gulak.
Oui, bah oui, c'est un peu la lumière dans cette feu de dans laquelle on n'a pas vraiment. Enfin, on attend que ça se termine et que Kalisto s'en aille, qu'il aille autre part et qu'on nous mette quelqu'un qui sait tenir un micro. Donc en attendant, bah on a Drew Gulak. Ce qui est marrant parce que en fait finalement Drew Gulak est le porte-parole du mec le plus bavard de la WWE. Donc ça n'a pas vraiment de sens, mais bon.
C'est même qui a pas besoin de silence, voilà.
Mais non, mais c'est toujours marrant la gueule que fait Enzo à chaque fois qu'il est en train de parler de façon un peu trop châtiée. Enzo le regarde genre. Donc ouais, ça c'est marrant. On a un match Survivor Series Kalisto Enzo en espérant que ça soit le dernier avant, bah voilà, mettez, mince, j'ai failli dire non, pas Brian Kendrick, monsieur Lumberjack.
Lumberjack.
Oui.
Cédric Alexander.
Cédric Alexander, voilà. J'imagine qu'ils vont mettre plutôt Cédric Alexander. Gargano direct. Je pense qu'il arrive,
Gargano,
pas
c'est des... mon rêve. Fou.
Ouais.
Non, j'ai entendu parler d'Hideo Itami.
Non, puis Gargano, il est contre Cian Almas aussi. Hein. Il est en feu.
Ouais, il a du boulot. Il a mieux à faire que ces conneries-là. Hein.
Ouais.
Non.
Plutôt bonne faute d'ailleurs.
Non, le japonais Hideo Itami.
Ah oui, Itami, oui. Il y a pas mal de rumeurs qui courent sur sa montée à 205. Donc oui, bah ouais, non, ce serait bien pour lui. Il a pas à force de ramer, je pense pas que maintenant il peut prétendre à aller dans les rosters principaux parce que il a tellement ramé, blessé, des moments il y a des trucs qui ont pas trop fonctionné au niveau de son personnage à NXT, donc vaut mieux qu'il aille à 205.
Puis il démissionnera comme tout le monde. La suite, le Miz qui fait chauffer la voiture pour la fin du show. Ils sont prêts à partir. Hein. Oui. Donc on a le match Main Event qui avait été annoncé plus tôt, je ne sais pas si vous en souvenez, Alexa Bliss contre Mickey James. Donc comme c'est Halloween, Alexa est en cosplay de Chucky, la poupée de sang. Quelques gros pumps dans le match, hein, toujours très disputé, et, hein, il y a toujours une belle complicité entre les deux dans le ring, belle alchimie. Victoire de Bliss sur une droite, ouais. Après quelques gros pumps.
C'était un peu bizarre.
Abrupt.
Ouais.
Quelque chose à dire sur ce match ?
T'as un bon match, mais une fois de plus, comment vous voulez qu'on croit qu'il va se passer quelque chose quand il y a eu le même match au pay-per-view d'avant et qu'on nous a clairement montré que Mickey James sortait de cette title picture dans une interview juste après le match. Elle a dit je suis déçu pour aujourd'hui, mais je perds pas espoir, etc. Mais c'était exactement le genre d'interview qui pourrait précéder une petite pause de carrière, une petite voilà. Finalement, elle a pas pris de pause, mais c'est pas pour autant qu'on va croire qu'une semaine après ils vont lui filer. Enfin, ça n'aurait pas vraiment de sens de lui filer. Enfin, 2 semaines après de lui filer la ceinture. Mais c'était un bon match. C'était un bon match. Puis bon, c'est aussi peut-être pour conserver le. Pour qu'Alexa Bliss se repose pas trop sur ses lauriers, sur son micro et tout ça, quoi. Donc voilà.
Ouais,
et puis
une défense de titre.
Oui, défense de titre. Ça serait bien une défense de titre contre quelqu'un de différent que la personne qu'elle a battue au dernier pay-per-view, quoi. Mais bon.
Oui, ouais, écoutez, pas tout à voir. Hein.
Ouais. Comme Bailey, par exemple.
Bah, en tout cas. on voit qu'ils font toujours confiance à Bliss et Enzo, hein, parce qu'ils sont dans la troisième heure. Hein. Du show,
et oui.
Donc voilà, ça veut dire qu'ils tiennent les ratings et que on peut leur faire confiance. Et qu'on comprend donc pourquoi Bailey est si bas dans la carte, hein, c'est parce que visiblement Alexa Bliss ça fonctionne. Hein, donc on reste sur Alexa Bliss pour le moment. Épilogue de la soirée, le mistourage se précipite dans la limousine. Ils sont prêts à partir, ils sont contents, mais voilà, sur le parking, ils sont bloqués par une bien étrange benne à ordures. Tiens donc, qui déverse sur la limousine des tonnes d'ordures et un Braun Strowman caché au milieu. Braun Strowman qui donc débarque comme alien, hein, quasiment, comme un monstre. Il va pourchasser le mistourage jusqu'au ring. On envoie le Miz se manger le mur lumineux écran de dernière technologie. On fait valdinguer Bo Dallas. Et on va ensuite s'occuper du Miz. On va vouloir lui placer un power slam, mais c'est Curtis Axel qui se sacrifie pour sauver son patron. Et là, au milieu du ring, il va se manger pas moins de 5 running power slam. Le dernier sur la table des commentateurs, quand même. Le public en redemande. Hein. C'est one more time, one more time. Grosse pop pour Braun Strowman. C'est-à-dire qu'il va faire des UV, on le teint en blond. Et ça devient le Kogan, là, ce soir. Voilà, donc, le retour gagnant de Braun Strowman dans le main event d'Euro, dans l'épilogue du main event d'Euro. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Hank?
C'était... On sentait venir hein, pendant tout le show, ouais, mais c'était un très bon moment. Le seul truc qui m'a fait... Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. C'est juste... Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. C'est juste... Genre, il revient, mais il revient comme s'il sortait des poubelles, donc du coup, c'est genre un peu dégueulasse quand même.
la séquence est affreuse, le montage
c'est le démon des poubelles. En plus, je pense que c'était un peu filmé, il y avait un effet de caméra qui était fait pour faire un peu vieux film d'horreur. On filme le Miz et le mistourage dans la limousine. Il regarde à travers le pare-brise. Il y a personne, il y a que des poubelles. Après, on revient aux mises et on revient à la poubelle. Et là, il apparaît juste au milieu. En fait, il sort même pas des poubelles, il est juste là, quoi. Braun Strowman, donc c'est un peu l'apparition. Et donc voilà. Après, c'est assez marrant de le voir. Braun Strowman, après, quand il est parti à la chaise du Miz, il était agile comme un chat. Hein, parce qu'il monte sur, il monte sur une poubelle.
Il monte sur la limousine. Hein,
il monte sur la limousine. Donc voilà. Bon. À voir ce qu'ils vont faire après pour l'instant. Oui, non, mais ça m'amuse, j'attends que ça avance, j'attends de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Strowman. Est-ce qu'ils vont vraiment faire cette rivalité avec Kane? Est-ce que ça va se goupiller avec une nouvelle tag team, du coup, Strowman, Rollins, Ambrose contre Kane, le Miz et... Ouais, bah là, du coup, ils sont 4, donc c'est compliqué. Ouais. Mais
Joe.
Kane, le Miz et Joe.
Ouais.
Ouais. Mais donc.
Ouais, non, bah, incroyable pop, hein, quand même. De...
Oui, oui, alors, mais de toute façon, enfin, s'il y avait besoin de le démontrer, ça, ça a été encore démontré dans ce Monday Night Raw, Braun Strowman, c'est le plus populaire en ce moment à la WWE. Toute star ou vétéran compris, hein, je trouve. Donc,
Et avec l'absence de Roman Reigns, il a une carte à jouer là. Hein. Et visiblement, il la joue. Hein. Donc, il peut aller très haut hein, là. C'est un peu le moment. Là, ils l'ont leur top babyface. J'ai envie de dire. Je pensais pas que ça serait Braun Strowman, mais les gens étaient à fond derrière lui. Ouais. Ça a tout de suite demandé à ce qu'il refasse des power slams sur Curtis Axel. Il a super bien joué. Hein. Il en a fait un deuxième. Je suis pas sûr que c'était prévu. Il en a tout de suite fait un troisième dans la foulée histoire de calmer le monde. Et après une bonne explosion sur les chaises, je crois que c'était très très bien joué de sa part. Il a ce qu'il faut pour être pour moi la top superstar de la WWE. Il a le physique, il a un physique incroyable quand même. Il y a un talent dans le ring avec. Quand on a un monstre comme ça qui est capable de faire ce genre de choses dans le ring, on a quand même un cheval gagnant, hein, là, j'ai envie de dire. Ils sont très bien joués.
Juste dans le chat, on avait monsieur WWE Catch France qui nous demandait alors que pensez-vous de la division Cruiserweight? C'est un peu une grande question. Qu'est-ce qu'on en pense? En tout cas, à Monday Night Raw, pour l'instant, la division Cruiserweight, ça va, ça vient. Des moments, ça, c'est un peu mieux, mais c'est juste, ils ont surtout un souci de. Là, ils ont un souci pour trouver quelqu'un qui est au niveau de Enzo au micro, et ils ont vraiment fait un très mauvais choix avec Kalisto. Hein, quand Kalisto a été annoncé, d'ailleurs, on faisait tous les deux le podcast. C'était une calamité, quoi, de nous sortir qu'on va y avoir une grande surprise et finalement on nous ramène Kalisto qu'on n'avait pas vu depuis quoi, 3 mois. Donc voilà. Division Cruiserweight. Après, si on regarde 205 Live, il y a des très bons matchs à 205 Live. Hein. C'est pas tout le temps, mais
le grand public, ça les intéresse pas. Ils ont pas joué la carte des Spotfest dans les matchs de Cruiser. Le roster qu'ils ont, c'est pas non plus un roster qui va casser trois pattes à un canard. Hein. Ils ont pas eu les grands noms. Au final, ils ont pas eu Kota Ibushi. Ils n'ont pas eu Zack Sabre Jr., Steen Harris est parti, Neville est parti, il leur reste que la mid-card ou la low-card de la Evolve en ce moment. Ils ont beaucoup de talent, c'est des bons workers, mais c'est pas des mecs qui vont accrocher avec le public de la WWE. C'est bien pour ça qu'il y a Enzo qui est là. Pour moi, c'est vraiment quand même un des gros échecs de la WWE, 205 Live et cette division Cruiser. Il vaut mieux aller se reporter sur des shows indépendants ou au Japon pour voir des vrais matchs de Cruiser vraiment intéressants, parce que ce qu'ils proposent, ça... C'est pas assez différent d'un match standard. Seth Rollins, Dean Ambrose sont plus impressionnants, Cesaro, que les Cruisers, comme ils les laissent catcher là.
Puis on en a déjà aussi parlé, je crois, aussi dans Talking Catch, je sais plus dans quel débat, mais le fait que les Cruiserweights, ça fonctionnerait si c'était dans un espace aussi restreint que NXT, dans une petite salle, où on les laisse faire ce qu'ils veulent, etc. Après, peut-être que la WWE y voit une façon de vendre plus de tickets, quoi. Mais ça, je pense pas que ça leur vend plus de tickets de dire vous allez voir SmackDown, mais vous aurez les Cruisers après. C'est après SmackDown. Donc du coup, c'est le même. Les gens qui payent un ticket pour SmackDown ont le show des Cruisers. Mais on voit très bien que les gens ils restent pas, parce que tu vas pas regarder, à part si c'est WrestleMania, tu vas pas regarder 5 heures de catch où il va pas forcément se passer grand chose.
C'est ça, il n'y a pas de draw, comme on dit, hein. Il n'y a pas des mecs qui mettent des gens dans les sièges, hein, tout simplement. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui fait que. On va aller regarder 205 Live toutes les semaines. Moi, je ne regarde pas 205 Live. Hein.
Pourquoi Oui, non, juste WWE Fan France, c'est la dernière qu'on fait avant de terminer quand même. Enfin, Catch France, qui dit pourquoi Harris est parti, j'avais zappé 5 mois de WWE. Harris, il est parti parce qu'il était mécontent de la façon dont il était traité. Il a été blessé pendant, pendant blessé à l'œil pendant enfin non ça il a eu non c'était une autre blessure qu'il avait où il est resté commentateur pendant pendant
non,
un
non
bail.
C'était la blessure à l'œil
Non, c'était la blessure à l'œil.
après
Donc du
sale coup
coup
de Nakamura.
il est resté la majorité du temps, enfin du moins de son entrée dans le roster principal entre guillemets, c'était commentateur. Après, on lui a offert cette feud avec Neville, ça partait plutôt bien. Et finalement, ils l'ont mis sur le banc, quoi, assez rapidement, quoi. Ils ont eu peut-être deux matchs en pay-per-view. À mon avis, il a bien compris.
Il avait d'autres ambitions, Harris.
Ouais, voilà, il a bien compris que non seulement il irait pas dans Raw ou SmackDown, et il a compris aussi que Neville était le roi pour l'instant, et que la WWE faisait confiance à personne d'autre que Neville. Donc voilà, il a préféré s'en aller. Il y a aussi cette histoire de match là de Mania qui était pas sur le DVD ou un truc comme ça.
Alors le match a été enlevé du DVD justement parce que le scénariste était parti. Donc ça a impacté Neville. Ouais. Mais c'est un peu un tempérament la CM Punk quoi au scénariste hein. Donc voilà, ça lui va pas.
L'ironie c'est qu'il est parti parce que il avait pas d'opportunité, il a jamais battu Neville pour la ceinture. Et Neville est parti, 6 mois plus tard. Donc, peut-être un peu plus que 6 mois. Ouais. Bon, allez.
Ouais, donc en plus, les gens sont pas trop heureux dans le roster. Donc, c'est vraiment c'est assez triste, cette division Cruiser. Voilà, bah, du coup, on a fait le tour de la question. Donc, justement, pour des infos générales sur le catch comme ça, n'hésitez pas à nous suivre sur Talking Catch, l'émission mensuelle que vous retrouverez si vous êtes abonné. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne Catch-up, les cahiers du catch. Vous nous trouvez aussi sur YouTube, sur PodCloud. On est aussi là sur Twitter, Catch-up CDC. Sur Facebook, c'est Catch-up CDC aussi. Si vous abonnez, vous aurez très rapidement le supplément SmackDown avec nos amis Giscard et IRM.
Ouais.
Ça va arriver assez rapidement. Vous avez aussi désormais les merveilleuses émissions de gaming de Hank. Retrouvez les aventures de Billy l'Esturgeon. C'est sa carrière dans le roster 2K18.
Et
voilà, on balance de nouvelles choses aussi sur la chaîne. Abonnez-vous, vous allez sur le petit bouton, c'est gratos, entièrement gratos.
Il y a des moments où on pousse des gueulantes et on fait une vidéo de 2 minutes qu'on improvise. Donc du coup, par exemple, la vidéo que j'ai fait sur Emma, voilà, c'était une vidéo improvisée. Donc vous ne saurez quand sont parues ces vidéos que si vous vous abonnez sur iTunes ou YouTube ou PodCloud. Voilà.
Sinon, vous passerez à côté. Voilà, Hank, merci beaucoup d'être venu.
Oui, et merci d'avoir présenté mon cher Ringside.
Merci pour ta réalisation.
Exhaustif.
Voilà, au possible. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci aux gens sur le chat. Et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut.